Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce retour sur l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Les titres pour commencer. Des mesures pour concilier l'écart entre l'évolution positive de la croissance macroéconomique en RDC et le vécu quotidien de la population. Joseph Kabila les a rendues publiques mercredi devant le Congrès. Parmi ces mesures, le président de la République pense que le petit commerce doit être exercé exclusivement par les Congolais. La mission judiciaire diligentée à Lubumbashi par le procureur général de la République pour procéder au contrôle fiscal auprès des opérateurs économiques se bute à la résistance de la FEC Katanga. Celle-ci a sommé ses membres à faire échec à cette mission. Des voix se sont levées pour condamner cette attitude. Et puis nous parlons de cette hausse en flèche des prix des biens de première nécessité dans le territoire de Wambas et en province orientale. À l'origine, la dégradation rapide de la partie réhabilitée du tronçon routier Inyanya-Wamba. Des interviews et reportages sont au menu de votre magazine qui reçoit aujourd'hui José Kadima. Il est syndicaliste et c'est avec lui que nous allons commenter et analyser l'actualité de la semaine. Monsieur José, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour monsieur.
Bonjour et bienvenue à vous chers auditeurs pour ces 30 minutes de retour sur l'actualité économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Le président de la République a annoncé mercredi des mesures pouvant aider à combler le fossé entre la croissance économique et le vécu quotidien de la population. Joseph Kabila l'a dit devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunies en congrès. Il rendait ainsi compte à la nation des grandes résolutions issues des concertations nationales. Paul Matindo a sélectionné pour nous cet extrait.
Je préconise que soient prises notamment les mesures ci-après. 1. L'organisation des états généraux des agriculteurs et des paysans. 2. Réformer le système fiscal. Restructurer la Cour des comptes. Élaborer un plan de programmation, budgétisation et procéder au paiement de la dette intérieure certifiée. Accélérer la mise en forme de toutes les réformes prévues dans le secteur des finances publiques. Évaluer la réforme du portefeuille de l'État. Élaborer une nouvelle feuille de route. Consolider le climat des affaires par le respect scrupuleux de la loi sur le marché public et parachever le processus de la mise en œuvre du droit au handa. Finaliser la loi sur la caisse de péréquation. Appliquer de manière rigoureuse le principe de l'exercice exclusif du petit commerce par les nationaux.
Joseph Kabila, le président de la RDC, devant le Congrès, c'est-à-dire la chambre haute et basse du Parlement, réunis ensemble, il faisait l'état de... il s'adressait ainsi à la nation congolaise après avoir pris connaissance de grandes résolutions des concertations nationales. Et vous, monsieur José Kadima, vous êtes syndicaliste, vous avez également suivi, comme tout autre Congolais, cette adresse du chef de l'État. Quelque chose me passe à l'esprit. Il faut restructurer la Cour des comptes. Il faut payer les dettes intérieures qui sont certifiées, le chef de l'État le dit, et il faut aussi que soient appliqués les principes qui disent que le petit commerce doit être exercé exclusivement par les nationaux. Un commentaire.
Après avoir suivi toutes les mesures, recommandations issues de concertations, en tant que Congolais, j'ai un sentiment partagé. C'est celui-ci. Bon, quand j'ai suivi les discours du chef de l'État jusqu'à la fin, il dit changer, pour changer le Congo, nous devons nous changer nous-mêmes. Dans ce pays, ce qui a manqué, ce ne sont pas des mesures, ce ne sont pas des recommandations. Et tout ce qui a été dit, je crois, avant-hier, a été déjà entendu dans ce pays. Et les mesures en rapport avec les restructurations, les réformes, les textes ne manquent pas. La question qui est très importante maintenant, c'est que les hommes qui sont habilités, qui ont reçu la mission de faire appliquer les mesures, se mettent effectivement au travail. Donc, simplement, nous serons en train de faire du surplace en revenant sur les mesures qui existent déjà. Faites une étude historique des textes légaux dans ce pays. Vous allez vous rendre compte que sur le petit commerce, il y a une abondance de textes. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut une applicabilité. Dernièrement, vous avez suivi des mouvements au niveau du petit commerçant qui réclamaient l'applicabilité de ces mesures-là. Cela existe. Les travaux sur la restructuration de la Cour de compte et tout ce qui est en train d'être dit dans le discours du chef de l'État, la réforme du portefeuille. Aujourd'hui, cette réforme, nous l'avons suivie de près depuis qu'elle a été réalisée par le COPIREP jusqu'à aujourd'hui. Ça pose des réels problèmes. Mais les députés en ont parlé, ils sont montés au créneau. Il est approprié que maintenant on puisse bien savoir si les canards boiteux d'autrefois, qui étaient les entreprises publiques, ont évolué actuellement, ou c'est pratiquement la même chose. Aller visiter les entreprises publiques pour voir ce qu'elles sont maintenant. Donc nous croyons que nous ne voulions pas. C'est bien de le rappeler, le chef de l'État a fait une litanie de bonnes intentions. Mais actuellement, notre problème n'est pas d'être focalisé
sur les intentions.
Il ne faut pas être focalisé sur les intentions. Il faut agir, parce que si nous n'agissons pas, nous restons toujours au même endroit. Je suis heureux, parce que changer le Congo doit passer par l'homme. L'homme est la mesure de toutes choses et la fin des sociétés. On fait la politique pour améliorer les conditions sociales des hommes. On fait la politique pour que cet homme puisse accéder au mieux-être. Sinon, si rien n'est fait dans ces conditions, c'est-à-dire que nous n'avons rien compris et les concertations n'auront servi à rien.
Et les dettes intérieures certifiées, il en existe,
c'est bien pas... sûr. Oui. Bien sûr, la dette certifiée,
la dette de l'État envers les entreprises.
Exactement.
Envers les particuliers, envers les opérateurs économiques.
Quand une créance est certaine et qu'elle a été certifiée, elle doit être payée. Nous ne comprenons pas pourquoi elle doit être gardée et que les créanciers ne se soient pas désintéressés. Je crois que c'est une bonne mesure. Il faudrait qu'elle soit appliquée parce que, au niveau des intentions, nous en savons quelque chose dans ce pays.
Nous vous gardons, M. José Kadima, le temps de prendre ce deuxième dossier de la semaine. Les activités économiques ont timidement repris jeudi après-midi dans le Katanga, et cela après une paralysie observée suite à l'appel de la FEC. Cet arrêt d'activité était observé à Lubumbashi, Kasumba, les Sali, Kassi et Kipushi, les stations-service et autres grands espaces commerciaux étaient restés fermés. Par cet acte, la Fédération des entreprises du Congo Katanga voulait exprimer son mécontentement suite à la scellée de certains établissements commerciaux et entreprises minières par une commission d'enquête venue de Kinshasa. Nous allons retrouver Karine Topé dans ce reportage et nous donne des explications.
Les stations-service de la ville sont les premières à se mettre au pain aux grandes dames des revendeurs qui avaient déjà revu à la hausse le prix du litre d'essence pour la FEC Katanga. L'évolution positive du dossier fait suite à la décision du procureur général de la République qui avait ordonné la réouverture de tous les magasins et entreprises minières scellées la semaine dernière. Au centre-ville, tous les magasins qui étaient déjà fermés cet avant-midi n'ont pas réouvert leurs portes. La population se dit satisfaite de cette reprise d'activité. Certains petits commerçants indiquent que cette paralysie d'activité a eu une incidence négative sur leur vécu quotidien.
Cette décision a paralysé comme moi mon activité.
Les chauffeurs de transport en commun se disent heureux car dans la matinée de ce jeudi 23 octobre, ils ont acheté un litre d'essence à 950 voire 1000 francs congolais auprès des revendeurs de carburant appelés communément Kadhafi au lieu de 800 francs congolais prix habituel. Pour certains responsables de stations d'essence, la décision de la FEC leur est parvenue en début d'après-midi, ce qui leur a permis d'ouvrir et de travailler comme d'habitude. Pour Maître Armand Ilunga, spécialiste en droit fiscal, les conséquences de cet arrêt d'activité économique pèsent sur tous les habitants de la ville.
Là, nous sommes en face de la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre devient moindre, la demande est grande, le prix augmente.
Notons que toutes les activités étaient paralysées ce jeudi sur demande de la FEC Katanga, qui protestait ainsi contre la mesure du parquet général de la République d'apposer des scellés sur certaines entreprises minières et établissements commerciaux du Katanga. Motif évoqué, entre autres, la fraude douanière, la fraude fiscale et la corruption. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Okapi.
Et à Kinshasa, Akage, dans un point de presse jeudi, a protesté contre l'attitude de la Fédération des entreprises du Congo, section Katanga. Le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice a condamné l'obstruction faite à la mission judiciaire de contrôle fiscal auprès des opérateurs économiques. La FEC serait, selon lui, encouragée dans son obstination par certains magistrats et politiciens qui sont eux-mêmes dans le business. Le président de la Akage, Georges Kapiamba, dans ses propos recueillis par Jocelyne Moussa Opondé.
Si vous avez suivi les informations, il y a une mission du parquet général de la République qui a été envoyée là-bas dans le cadre de la lutte contre la corruption, contre la fraude douanière, où cette mission a eu à faire sceller certains magasins pour contraindre les opérateurs économiques à s'acquitter de leurs obligations en payant les impôts à l'État. La FED a eu à faire pression, a même demandé à ses membres de ne pas obéir à la dite mission. Et depuis le matin d'aujourd'hui, nous avons appris de nos amis qui sont sur place que tous les magasins des grossistes, toutes les stations sont fermées parce que pour la FEC, la justice ne doit pas mener cette mission. Nous, au niveau de la CAJ, nous sommes trop préoccupés par cette attitude des opérateurs économiques. Et selon nos enquêtes, nous avons appris que certains de ces opérateurs économiques sont encouragés tant par certains magistrats que par certains responsables politiques qui eux-mêmes sont déjà dans les activités minières, sont dans les activités d'importation de carburant, de produits de première nécessité, et ces gens ne veulent pas s'acquitter de leurs obligations. Donc il y a un travail qui doit être fait. Il faudrait absolument que la justice mène aussi une enquête sur les magistrats qui sont dans les business, parce que cela est contraire à la loi qui leur interdit à la fois de servir l'État, mais aussi de verser dans les activités commerciales.
Georges Kapiamba, président de la CAJ, nous retrouvons dans ce studio notre invité José Kadima qui commente l'actualité avec nous. Ça passe peut-être cette confusion entre les opérateurs économiques et la mission d'enquête du procureur général de la République. Il s'est posé peut-être un problème de procédure parce que ces gens disaient qu'ils sont surpris, même s'ils sont surpris, mais ils n'ont pas, c'est pourquoi ils n'ont pas collaboré.
Oui, moi je pense que seule la justice élève une nation, il faut se soumettre aux enquêtes de justice quand on se reproche de rien, et surtout pour les opérateurs économiques qui sont contribuables, qui participent au développement du pays. Quand une mission comme celle-là est diligentée, c'est mieux de coopérer pour voir si effectivement est-ce qu'il n'y a pas fraude douanière. Parce que vous savez, après les discours du chef de l'État avec tout ce qu'il comporte, on comprend qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a une volonté de la transparence et de la bonne gouvernance. Les opérateurs économiques sont partenaires du gouvernement pour le développement du pays. Nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons vouloir quelque chose de son contraire. Il est vrai aussi que les opérateurs économiques parmi les plus puissants, ce sont des étrangers et qu'ils sont couverts dans leurs intérêts par certains Congolais qui sont évidemment
haut placés.
Et généralement, les missions de justice peinent à être menées à leur finalité à cause de toutes ces manœuvres, des intérêts, d'interférences, ce que le chef de l'État a appelé l'affairisme aussi au sommet de l'État. Nous regrettons ce comportement. Nous pensons qu'avec la nouvelle dynamique qui est mise en place à la suite de ces concertations nationales, de tels comportements ne pourront plus obstruer à la bonne marche de notre justice.
Un autre dossier de la semaine, la série de manifestations contre la coopérative d'épargne de crédit Imara se poursuit. À Kisangani, une centaine de clients ont assiégé le bureau de représentation de cette institution financière, réclamant le retrait de la totalité de leurs placements. La fermeture de la coopérative d'épargne de crédit Imara était à sa quatrième journée jeudi dernier. Godlive Omondo nous explique.
Ces clients disent avoir été informés par leurs proches vivant à Goma de la faillite prochaine de cette institution financière. Et suite à ces retraits massifs, le gérant a pris la décision de fermer momentanément pour éviter un déséquilibre qui pourrait aboutir au manque de liquidité. Mais il n'en a pas informé ses clients au préalable, ce qui a encore attisé la colère des clients. Ces derniers ont observé un sit-in devant les bureaux de la COP Kimara pour réclamer leur argent. Ils ont menacé d'incendier l'immeuble abritant cette coopérative. Il a fallu l'intervention de la police pour calmer la situation. Selon John Dakola, gérant de la COPEC Imara à Kisangani, qui cite son directeur général basé à Goma, cette institution financière est victime d'une intoxication provoquée par des personnes mal intentionnées. Toujours selon lui, une assemblée générale a été tenue dernièrement à Goma sous la conduite de la Banque centrale du Congo et il a été démontré clairement que la COPEC Imara n'est pas en faillite. Kisangani, Godlivo Mondo, Okapi Economy.
Une situation similaire est également observée dans le Maniema et là, les clients de cette institution sont en colère parce que la COPEC a fixé le montant maximum de retrait par jour à 50 dollars américains. La Banque centrale du Congo qui effectue le contrôle pour savoir si cette COPEC est en faillite, comme le disent les membres, est finalement arrivé à la conclusion qu'il n'en était pas le cas. Mais le gérant de la COPEC, Maniema, rassure et déclare rouvrir les portes après cet audit de la Banque centrale du Congo. Monsieur José, le 31 octobre prochain, ce sera donc la journée internationale de l'épargne. Une coopérative d'épargne et de crédit va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, une telle situation qui se présente risque de décourager les gens qui ont commencé à reprendre cette habitude de l'épargne, aller vers les banques, aller vers les institutions financières. De telles situations peuvent encore reculer les gens.
Oui, exactement. Après tout le parcours que notre pays a connu avec les pillages, les guerres, il était tout à fait normal que les populations puissent se désengager ou ôter leur confiance dans les institutions bancaires, soit les coopératives ou les IMF qu'on appelle institutions de microfinance. Mmh. Ce qui arrive avec la COPEC est regrettable. Nous croyons que dans ce domaine, la Banque centrale est l'acteur de régulation. Et avant que de telles actions ne puissent arriver, cette institution, c'est-à-dire la Banque centrale, devrait s'assurer des contrôles effectifs pour savoir si une coopérative est en cessation de paiement ou n'a plus de liquidité. Parce que vous savez, quand vous placez votre argent au sein d'une banque, une coopérative, vous devez être servi au moment où vous en avez besoin. Alors, quand il y a les plafonnements en rapport avec
le retrait,
il se pose déjà un problème, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance à ce niveau-là. Comme la Banque centrale est déjà saisie, je crois que les contrôles nécessaires vont se faire de telle sorte qu'une fois encore, les Congolais soient protégés. Vous connaissez le cas de la Cadeco à l'époque, vous connaissez beaucoup d'autres cas des banques qui ont existé ici et qui ont
disparu
sans que les Congolais ne puissent entrer en possession de leur argent. Il ne faudrait pas que cela arrive. Vous savez que la population de l'Est, c'est-à-dire la partie couverte par Copé-Guimara, c'est une population qui a été meurtrie pendant plusieurs années. Ces gens font des petits commerces pour pouvoir épargner. Il est tout à fait inacceptable qu'à ce jour, une telle situation puisse encore arriver en dehors des souffrances qu'elle endure déjà sur le plan social. Quelqu'un qui s'adonne à une activité pour l'étude de ses enfants, pour des petits projets, ne peut pas se trouver encore du jour au lendemain à son point de départ. C'est là inacceptable. Nous demandons à la Banque centrale de faire son travail et d'épargner les Congolais des conséquences fâcheuses.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre info de la semaine en plus bref, les 102 ex-agents de l'autorité de régulation du marché public RMP étaient encore cette semaine à la primature. Ils estiment leur licenciement abusif et continuent de réclamer des arriérés de 9 mois de salaire et des décomptes finales. Le secrétaire du directeur de cabinet du Premier ministre les a reçus, leur a demandé d'attendre le rendez-vous qui leur sera fixé. Les députés nationaux ont adopté cette semaine le projet de loi sur les industries nationales vitales en péril. Ce projet de loi proposé par le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, entrevoit des facilités aux investisseurs privés en vue de rendre possible la relance des industries congolaises au bord de la faillite. Et nous allons terminer cette série par le Maniema où 200 fûts de gazole, de l'essence, d'huile et de graisse pour les motos et tracteurs sont arrivés mercredi en provenance de Kisangani. Ces consommables sont destinés à la relance de la campagne agricole 2013-2014. Ces matériels évalués à 156 millions de francs congolais ont été commandés de Kisangani depuis plus de 2 mois. Nous allons retrouver notre invité. La grande question, monsieur José Kadima, vous êtes syndicaliste et vous êtes parmi les syndicalistes qui militent pour obtenir le gain de cause aux 102 ex-agents de l'RMP que nous avons rencontrés cette semaine à la primature. C'était pas facile, vous êtes allé réclamer le droit et nous avons vu comment la police a jeté de gaz lacrymogène sur les agents qui étaient licenciés et qui ne sont pas rentrés dans leurs droits.
C'est que les travailleurs, les ex-travailleurs de la RMP sont en train de réclamer au Premier ministre qui est l'autorité de tutelle, c'est actuellement le paiement des arriérés de salaire. Actuellement, il y a 9 mois d'arriérés de salaire. En plus de ça, les décomptes finaux, les décomptes ont été certifiés, calculés par l'inspection générale du travail, certifiés et est transmis à ce jour au Premier ministre. Tout ce que ces travailleurs demandent, c'est que cela soit résolu. Parce que vous savez, le Code du travail, à son article 100, dispose que quand il y a eu cessation de travail, le solde de tout compte doit être payé dans 48 heures. Mais il va faire 4 mois depuis que ces travailleurs ont été licenciés. Je ne vous rappelle pas le nombre de correspondances envoyées au cabinet du Premier ministre. Aucune réponse à ce sujet. Nous considérons que cela est une mauvaise foi, teintée de mépris pour les travailleurs qui sont des Congolais.
Qui ont presté
au moment où les chefs de l'État parlent du social, au moment où les chefs de l'État parlent de la protection des familles au Congo. Nous sommes là devant un cas concret du Premier ministre avec son administration qui ne veut même pas recevoir ces travailleurs, qui ne demandent pas un cadeau, qui ne demandent pas de l'aumône, mais qui ont presté, qui ont laissé derrière eux les arriérés de salaire. Et à ce jour, un décompte final pour chacun qui a été calculé, certifié par l'inspection du travail. Voilà ce qu'on nous demande. Nous rappelons par l'occasion que la procédure de licenciement, les licenciements qui étaient massifs, une procédure biaisée du début jusqu'à la fin, et cela a été confirmé par l'inspecteur du travail qui est habilité en cette matière-là à mener une enquête avant que le licenciement ne soit effectif. Donc encore une fois, il y a eu violation de manière manifeste par les ministres du travail qui a reconnu la violation de la procédure dans une première correspondance et qui va se contredire dans une deuxième correspondance. Vous comprenez? Les travailleurs auront gain de cause parce que nous sommes dans un pays de droit, parce que nous savons que le président de la République protège tout le monde et ils sont disposés à recevoir très rapidement une solution à ce problème. Parce que je veux peut-être terminer par là, vous savez que il y a pratiquement un mois qu'il y a eu une rentrée scolaire, mais parmi ces travailleurs, il y a des enfants qui traînent à la maison, qui ne vont pas, il y en a qui ont été déguerpis de leur maison, il y en a qui sont malades, qui ne savent pas se faire soigner simplement parce qu'il y a quelque part une volonté affichée de ne pas mettre à leur disposition les frais ou de l'argent qui est une conséquence de leur prestation en tant que travailleur.
Mais, monsieur José, nous avions personnellement vu le DG, le directeur général de l'autorité de régulation du marché public au sujet des arriérés. Celui-ci nous a laissé entendre que c'était une situation générale. Ça ne concernait pas seulement ceux qui sont licenciés, mais concernait également ceux qui sont encore actifs à l'RMP. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je suis d'accord, parce que le syndicat ne se bat pas seulement pour les intérêts de ceux qui sont licenciés, également pour les intérêts de ceux qui sont encore travailleurs, parce que les arriérés, comme le DG vous a dit, les arriérés concernent aussi bien ceux qui ont gardé le contrat et ceux pour qui le contrat a été résilié. Donc c'est une situation qui est générale, mais maintenant elle est un peu plus appuyée parce que ceux qui sont licenciés ont une situation beaucoup plus particulière. Cette situation, elle est beaucoup plus difficile actuellement parce que le contrat a été résilié. Il n'y a plus de lien avec l'État. Il faudrait qu'en conséquence, 48 heures après, qu'ils soient désintéressés complètement pour ne plus aller à la primature, pour ne plus aller voir les conseillers du Premier ministre. Vous savez, ça fait 3 mois. Nous avons fait la ronde de tous les collèges des conseillers du Premier ministre, des réunions en réunion. De rencontre en rencontre.
Mais qu'est-ce qu'on peut retenir après cette dernière descente à la primature?
Ce qu'on peut retenir, c'est que le secrétaire de cabinet nous a envoyé auprès du collège juridique et au niveau du collège juridique que nous avions déjà vu en son temps. Il n'y a aucune évolution, nous attendons. Une autre technique va encore être adressée au Premier ministre, mais ça sera la 50e, ça sera environ la 8e note technique qui est envoyée auprès du ministre. Le Premier ministre pour la même situation, mais la solution ne vient pas. C'est pourquoi nous en appelons ici aux députés nationaux, nous en appelons ici au sens de responsabilité du président de la République. Il a dit clairement dans son discours que la population retient en ce moment que quelque chose soit fait de manière particulière pour que les 102 travailleurs de l'ARMP licenciés puissent avoir gain de cause dans les dossiers, et aussi les travailleurs qui continuent à garder le contrat, parce que je vous rappelle que même ceux qui ont préservé leur contrat à l'ARMP ont presté pendant pratiquement 10 mois sans avoir été payés. L'ARMP est un établissement public. Et à ce niveau, nous ne pouvons pas comprendre comment une volonté du Premier ministre, qui est par surcroît tutelle, refuse de mettre à la disposition de cette entreprise les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement.
Panorama économique, reportage.
Et c'est par ce reportage de la semaine que nous allons boucler Panorama économique. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté dans le territoire de Wamba, c'est à 400 km à l'est de Kisangani en province orientale. À l'origine, la dégradation rapide de la partie réhabilitée du tronçon routier Nyanya-Wamba, l'office de route dit avoir déjà lancé les travaux de réhabilitation de ce tronçon d'intérêt communautaire. Anselme Massoua.
C'est depuis un mois que le territoire de Wamba assiste impuissamment, déclare la société civile, à la dégradation de ce tronçon long de 80 km. 15 grands bourbiers, sans compter les nids de poules, se sont constitués suite à l'absence de la maintenance de la route. Patrick Ambaïsou, président de la société civile locale, témoigne.
De 25 jusqu'à Bayenga, une distance au moins de 80 km, il y a des bourbiers au moins à chaque après 5 km. Donc la situation est devenue plus grave qu'avant. Mais puisque bien avant, il y avait quand même la possibilité que les camions s'infiltrent un tout petit peu, essayent de se débrouiller sous les bourbiers. Mais actuellement, c'est devenu vraiment difficile que les camions atteignent Bayenga, Wamba, Isiro. Donc les camions, pour cette distance de 80 km, un camion doit faire 3 semaines.
Conséquence, rareté des produits suivie de la hausse des prix dans les marchés. Patrick Ambaïsou, une fois de plus.
Le prix du carburant, c'est parti de 1800 jusqu'à 6000 francs. Une bière qu'on achetait à 1500 est allée à 3000. Le verre de sucre qu'on achetait à 150 francs est allé à 300. Les haricots, c'est parti de 300 à 700, 800. Trois fois même le prix d'avant. Et par conséquent aussi, vous savez que Bayenga était déjà un centre de négoce important. On trouvait autant de dépôts de carburant, autant de dépôts de produits manufacturés. Mais aujourd'hui, si vous arrivez à Bayenga, le centre de négoce est comme déserté, puisque les commerçants ne savent plus amener leurs marchandises jusqu'à Wamba.
Le directeur provincial de l'office de route déclare avoir déjà lancé les travaux de traitement de ces bourbiers depuis 3 semaines. 3 sont déjà complètement couverts. Et d'ajouter qu'un lot d'engins civils constitué de tractopelles, compacteurs, camions chargeurs et niveleuses en provenance de Kinshasa venait d'être réceptionné. Ces matériels n'attendent que la fin de leur vérification pour qu'il soit acheminé à Wamba. Kisangani, Anselme Massoua, Écho d'économie.
Bon week-end à toi, Anselme Massoua, et bon week-end à tous ceux qui nous écoutent à Kisangani, dans la province orientale. Retrouvons José Kadima. José, la dégradation de route rend la vie difficile aux Congolais. Vous allez commenter ce reportage de la semaine, et si vous pouvez aussi faire une petite synthèse de tous les sujets qu'on a développés dans cette émission, et on va terminer par là.
Ce que je peux dire par rapport au discours du chef de l'État, c'est que la population accorde toutes les chances à cette nouvelle dynamique qui va être mise en place pour le lendemain meilleur. Mais en même temps, la population est habituée par des discours dans ce pays. Vous savez que il résonne encore dans nos mémoires les slogans du genre « plus rien ne sera comme avant ». Le chef de l'État a dit quelque chose dans le même style. Il a dit « demain sera mieux qu'aujourd'hui ». Vous savez, la meilleure illustration de la cohésion nationale a été apportée par le 1+4. Nous étions éparpillés, en plus les gens se sont mis autour d'un gouvernement. Cela va se repercuter certainement avec le gouvernement de cohésion nationale. Mais après 1+4, on ne s'est pas empêché d'avoir Bundu Dia Congo, on ne s'est pas empêché d'avoir Ignele, on ne s'est pas empêché d'avoir Bakata Katanga, Colonel Chibangu et tout ça. Ce que la population veut, c'est que les chefs de l'État puissent agir. Effectivement, quand il dit que maintenant il y aura un mécanisme pour arrêter la corruption, il faut qu'il y ait des actions concrètes. Gouverner, c'est prévoir. La cohésion nationale voudrait que nous puissions mettre de côté les inclinations personnelles, nous puissions quitter l'état de nature pour aller à une situation d'état. Vous savez, le comble en Afrique, hein, là je vais citer Thierry Memoyla qui parle de l'état postcolonial en Afrique. L'état postcolonial en Afrique est né d'un processus contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'État et la nation est venue par après. Tous les efforts que nous sommes en train de faire actuellement, c'est des efforts de créer la nation, de créer la communion entre les populations. Mais le vouloir vivre collectif est un vouloir vivre collectif qui doit être lié au social, pas simplement au politique. Parce que quand on met les efforts autour du gouvernement, autour du politique, on oublie l'essentiel et on va revenir à la case de départ. Nous souhaitons toutes les bonnes choses à la République démocratique du Congo. Nous croyons que cette fois-ci sera la bonne.
Nous croyons que cette fois-ci sera la bonne et c'est sur ces mots que nous refermons Panorama économique de cette semaine. Notre plaisir a été grand de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de la rétrospective de l'actualité économique de la semaine, analysée et commentée par José Kadima qui est syndicaliste. Monsieur José, merci d'avoir accepté notre invitation et nous osons croire que ce n'est pas la première et la dernière.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous, chers auditeurs. Eh bien, retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radioocapi.net et très bonne suite de programmes. Bon week-end à toutes et à tous.